Le titre de mon message aujourd'hui, très simple, le Jésus de la Bible. Vous savez, il y a de par le monde plus de 2 milliards de personnes qui se disent chrétiennes, qui se réclament du christianisme. Et quand vous consultez de World Christian Encyclopedia, on compte dans ce groupe, tenez-vous bien, plus de 33 800 confessions chrétiennes distinctes. Des grands groupes, des petits groupes, mais plus de 33 000. Et tous ces groupes-là se disent chrétiens et disent s'inspirer de la même Bible, bien que leurs croyances et leurs enseignements sont souvent tout à fait différents les uns des autres et même opposés. Pourtant, par définition, un chrétien doit vivre conformément aux enseignements et à l'exemple du Christ. Ce sont des enseignements précis et un exemple précis qu'on voit dans la Bible. Bien sûr, il faut d'abord y croire que le Christ existe, le véritable Jésus, et le connaître. Et c'est pour ça que je donne le message aujourd'hui, pour qu'on aille plus loin dans la connaissance du Christ et qu'on s'assure de notre fondement. Le Jésus décrit dans la Bible. Vous savez, malheureusement, la plupart des gens dans le monde qui croient en un Jésus qui n'est pas celui de la Bible. Ils croient en un Jésus de contrefaçon qui a été imaginé par les humains. Allez dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Je vais vous montrer quelque chose qui est arrivé dès le début de l'Église concernant ça. 2 Corinthiens, chapitre 11. C'est l'apôtre Paul qui parle ici à des gens de l'Église que Dieu avait appelés, qui connaissaient les textes, qui connaissaient, qui avait été enseigné concernant le vrai Jésus-Christ. Et regardez ce que Paul dit au verset 3 et 4. En fait, il avertit les chrétiens de la ville de Corinthe de ne pas tomber dans ce piège, de croire à un autre Jésus que le Jésus réel de la Bible. Versets 3 et 4. « Je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous vous avons prêché, vous le supportez fort bien. C'est fort. Regardez, c'est pas longtemps après que le Christ a quitté la terre et est retourné au trône de son Père, alors que l'apôtre Paul était encore là en train d'enseigner les églises. Il est clair qu'à ce moment-là, certains membres de l'Église s'étaient déjà laissés séduire par la fausse idée d'un Jésus qui n'était pas du tout conforme à la réalité. Les Corinthiens acceptaient un autre Jésus. Et vous savez une chose? C'est la même chose aujourd'hui. Il y a même des gens qui ont fait partie de l'Église du Dieu vivant, qui ont appris les choses que nous avons apprises et qui, à un moment donné, se sont mis à croire à un autre Jésus. Comme par exemple, s'il fallait l'appeler seulement par un nom particulier. Puis il y avait tout un rituel comme de quoi il fallait appeler Jésus d'un certain nom pour qu'il nous entende, ou Dieu d'un certain nom pour qu'il nous entende. Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Aussi choquant que ça puisse paraître, de nombreux chrétiens acceptent, sans même s'en rendre compte, un autre Jésus que celui décrit dans les Écritures. Ce n'est pas surprenant, je devrais dire, parce que c'était votre cas. Et c'était mon cas. On a tous passé par là, avant d'avoir ouvert nous-mêmes les pages de la Bible et vérifié par nous-mêmes qui est réellement Jésus-Christ. On s'est rendu compte qu'on ne croyait pas au vrai Jésus, que le Jésus auquel on croyait n'existait pas. Même si nous pensons sincèrement connaître Jésus, même si nous sommes dans l'Église depuis longtemps, il est encourageant et important de mettre ensemble les morceaux qui décrivent le Christ et qu'on trouve dans la Bible, pour nous assurer d'éliminer tout ce qui pourrait rester de fausses images que nous avons apprises au cours de notre vie avant que Dieu nous appelle à connaître la vérité. Allez dans Luc chapitre 1, s'il vous plaît. Luc chapitre 1. Savez-vous d'où lui est venu le nom de Jésus? Est-ce que vous pourriez me le dire? C'est venu directement du Dieu suprême, par la bouche de son envoyé, l'ange Gabriel, qui était venu annoncer à Marie qu'elle allait devenir enceinte, selon le plan de Dieu. Alors, Luc 1, à partir du verset 30, on lit ceci. « L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. » Alors, voyez-vous d'où ce nom-là est venu? Et ce n'était pas choisi au hasard, parce que Jésus veut dire « sauveur ». Et Jésus est le sauveur du monde. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur, Dieu, lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Bon. Remarquez que cette annonce révélait en même temps les deux venues principales de Jésus sur la terre. Le Christ, avant d'être Jésus, né dans la chair, est venu sur la terre à plusieurs occasions dans l'Ancien Testament. Mais il y a deux occasions où le Christ vient qui sont des points marquants de l'histoire du monde, qui marquent deux étapes majeures du plan divin. D'abord, sa naissance en tant qu'être humain, il y a 2000 ans, quand il est venu mourir pour nous. Et bientôt, sa seconde venue, qui va marquer une autre étape du plan de Dieu. Et ça, c'était l'accomplissement précis d'une prophétie annoncée par Ésaïe, faite il y a 700 ans auparavant. Faite 700 ans auparavant. Vous trouverez ça dans Ésaïe 7, au verset 14. Ésaïe 7, verset 14, dit ceci. « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Un autre des noms de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous. Ça désignait ce qu'il allait être. Il allait abandonner sa divinité, venir naître dans la chair humaine et être à ce moment-là Dieu avec nous. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons, ça c'est fascinant, plus de 100 prophéties qui annoncent la venue du Messie. Il y a une centaine de prophéties qui annoncent la venue du Messie. Et ça, ça prouve non seulement que Jésus existe, mais ça nous montre aussi, hors de tout doute, le déploiement de la puissance de Dieu pour réaliser son plan pour l'humanité. Allez dans Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9. Zacharie chapitre 9. Nous allons lire le verset 9. Ce passage-là a annoncé clairement que Jésus, lors de sa première venue, allait un jour, sous les acclamations de la foule, entrer dans Jérusalem, monté sur un ânon. Ça a été écrit longtemps d'avance. Zacharie 9, verset 9. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a de nombreuses prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient des événements majeurs qui allaient se produire plusieurs années plus tard concernant le Christ, le Messie. « Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un âne. » Sur un âne, le petit d'une ânesse. Bon, ça, ça a été écrit dans l'Ancien Testament. On ne s'y reportera pas, mais vous irez au début du chapitre 21 du livre de Matthieu, Matthieu 21. Et vous lirez les premiers versets. Ça décrit la réalisation de cette prophétie, longtemps après. C'est un bel exemple. Il y a une autre prophétie aussi dans Zacharie. Allez à Zacharie 11, une page plus loin. Il y a une autre prophétie de l'Ancien Testament, Zacharie 11, versets 12 et 13, qui prédisait précisément que Jésus serait trahi pour 30 pièces d'argent. On ne peut pas être plus précis que ça. Lisons-le. Je le dis, c'est le Christ qui parle, c'est-à-dire le Dieu de l'Ancien Testament, en parlant de lui-même de ce qui allait lui arriver lorsqu'il viendrait dans la chair humaine en tant que Jésus. Je leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne me le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 sicles d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, la valeur qu'ils ont donnée au Christ. Et je pris les 30 sicles d'argent et je les jetai dans la maison de l'Éternel pour le potier. La chose s'est réalisée lorsque Judas a reçu 30 pièces d'argent des principaux sacrificateurs pour trahir le Christ, comme on voit dans Matthieu 27. Alors voyez-vous, ces prophéties annoncées très longtemps d'avance et accomplies en leur temps, selon le plan de Dieu, prouvent l'existence de Jésus, de même que l'authenticité et l'exactitude de la parole de Dieu. Il n'y a personne qui aurait pu planifier quelque chose du genre, écrire des annonces d'événements des milliers d'années d'avance, les faire se réaliser et faire en sorte qu'on ait les écrits de ça aujourd'hui. Par ailleurs, il y a des sources qui ne sont pas religieuses du tout, des historiens, des chercheurs qui reconnaissent l'existence du Christ comme étant un personnage important, un personnage qui a réellement existé. Vous avez par exemple Pline le Jeune, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, un brillant orateur, auteur de plusieurs ouvrages. Et quand vous allez voir sous son nom dans l'encyclopédie Larousse, on mentionne ceci. Les lettres de Pline manquent de spontanéité, mais elles nous aident à nous faire une représentation exacte de la société romaine de la fin du 1er siècle et du début du 2e. Un 10e livre traite de l'administration des provinces et du traitement des chrétiens. Voyez-vous donc, les chrétiens existaient. Et les chrétiens, c'est les disciples de Christ. Alors, c'est une attestation hors du circuit religieux qui dit que le Christ a existé et que les chrétiens ont bel et bien existé. Pour sa part, l'historien Tacite raconte les événements entourant l'incendie qui a détruit la ville de Rome en 64 de notre ère sous l'empereur Néron. Il y a beaucoup de Romains qui croyaient que l'incendie avait été ordonné par Néron pour différentes raisons, mais pour apaiser ces rumeurs, il, Néron, offrit d'autres coupables et fit souffrir les tortures les plus raffinées à une classe d'hommes détestés pour leurs abominations et que le vulgaire appelait « chrétiens ». C'est fort, hein? Ce nom, et là il précise après ça, ce nom leur vient de Christ qui, sous Tibère, fut livré au supplice par le procurateur Ponce Pilate. C'est dans les annales publiées par Tacite, livre 55, chapitre 44. De son côté, vous avez un autre historien, Flavius Joseph, qui mentionne Jésus à quelques reprises dans ses écrits. À un moment donné, il dit ceci, « Il fit venir Jacques, frère de Jésus, nommé le Christ. » Mais vous, il décrit des situations historiques de son époque, mais en même temps, ça fait référence à l'existence du Christ. C'est intéressant, je vous pose une question. Vous savez, les nations du monde entier ne croient pas au Christ. Je ne vous apprends rien. Mais sans s'en rendre compte, elles attestent indirectement de son existence. Je vais vous dire pourquoi. Comment? De quelle façon est-ce que les nations comptent les années dans l'histoire humaine? Quand vous regardez les livres d'histoire, avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Et elles le font toutes. Et ça, ça a commencé au Moyen Âge, sous un moine catholique, je pense, le nom m'échappe. Mais toutes les nations se servent de ça pour calculer le temps, avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ. Je vais plus loin. Un autre témoignage de quelqu'un qui n'est pas quelqu'un de l'Église, mais qui cherchait la vérité. Le docteur Albert Schweitzer, vous avez déjà entendu parler, c'est un philosophe, c'est un théologien, un médecin qui a été en Afrique plusieurs années. Il a écrit un livre en 1906 intitulé « The Quest for the Historical Jesus », autrement dit, « La recherche du vrai Jésus ». Et ça l'intriguait, il a fait des recherches, et je veux vous souligner la conclusion à laquelle il est arrivé. Non seulement il était convaincu de l'existence de Jésus, mais ses recherches l'ont amené à conclure que le Jésus de la Bible est très différent du Jésus présenté par le christianisme traditionnel. Donc, en faisant toutes ces recherches, il s'est rendu compte que le Jésus qui était enseigné dans les églises chrétiennes du monde, ça ne correspondait pas à ce que la Bible mentionne. Et c'est exactement le thème que je vous donne aujourd'hui. Qui est-ce qui était Jésus avant de naître en tant que Jésus-Christ? Allez dans Jean 1, chapitre 1 à 3, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et ici, je vais préciser de qui il s'agit. Plusieurs d'entre vous, vous le savez déjà, mais pour les personnes plus nouvelles avec nous, ça va aider aussi. Et nous, ça va renforcer la compréhension du plan de Dieu. On voit par ce passage-là, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, on voit que de toute éternité, deux êtres spirituels divins ont existé avant que rien d'autre ne soit amené à l'existence. Le premier est ici appelé Dieu. Et quand vous regardez le texte grec, le mot utilisé, c'est « théos ». d'où le mot théologie, science de Dieu. Alors, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Dieu ici, c'est Théos. Ça, c'est le gouverneur de l'univers. Le second est appelé la parole, Logos en grec. Dans la langue grecque, il y a deux mots différents. Donc, il y a un Dieu qui est désigné comme Théos et l'autre est désigné comme Logos en grec, c'est-à-dire le porte-parole du premier être divin. Allez maintenant dans Hébreux chapitre 1. Hébreux chapitre 1. C'est fascinant quand on met ensemble les versets de la Bible qui se rapportent à Jésus, qui il était, ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de précisions dans les textes. Hébreux chapitre 1. Donc, je reviens à ça. La divinité éternelle est composée de deux êtres divins, comme on a vu dans Jean 1, le deuxième étant soumis à l'autorité du premier. Nous voyons aussi que tout ce qui fut ensuite amené à l'existence a été créé, non pas par le gouverneur de l'univers, mais par son porte-parole, par celui qui devint plus tard Jésus-Christ dans la chair humaine. Celui-ci a agi en tant qu'agent créateur pour le gouverneur de l'univers. Ça nous est confirmé ici dans Hébreux 1, verset 2. Regardez ce qui est écrit. « Dieu, dans ses derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. » Alors, on voit ici qui a procédé à la création. Ce n'est pas le gouverneur, c'est son porte-parole. Et regardez verset 5, allons un peu plus loin. Verset 5. « Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils? Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. » Ça, c'était sa planification du plan. À l'effet que le Logos, son porte-parole, allait naître dans la chair humaine, ensuite mourir et ensuite être ramené à la vie, mais à la vie éternelle, et naître de nouveau à ce moment-là, devenant son fils. C'était dans le plan. Verset 8. « Mais il dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. » Oui, c'est deux êtres divins. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes collègues. Il sera toujours supérieur à ceux qui vont naître ensuite dans la famille de Dieu. Et verset 10, « Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre. » On a vu, c'est par le porte-parole que le Christ a créé, que Dieu a créé toutes choses. « Et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. » Formidable. C'est donc pas le Père qui a procédé à la création, comme plusieurs le croient. Colossiens 1, à partir du verset 15, nous dit la même chose. Colossiens 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Et ce sont des titres donnés à des anges. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est le point central, dans le fond, là, de toute la création et du plan de Dieu. Allons à Genèse chapitre 1 maintenant, dès le commencement. Genèse 1, chapitre 1, c'est associé directement avec ce que je vous explique. Genèse 1, verset 1. « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Donc, c'est le Logos, le porte-parole du gouverneur de l'univers qui a créé. Et tous les érudits savent que le mot hébreu traduit ici par Dieu est « Elohim ». E-L-O-H-I-M. E-L-O-H-I-M. C'est comme dans le cas du mot « église » ou « couple » ou « famille ». Le mot « Elohim », c'est un mot pluriel qui désigne plus qu'un individu. Comme le mot « famille », par exemple, implique automatiquement plus qu'un individu. Alors, « Elohim », c'est automatiquement plus qu'un individu. Même si ce fut la parole qui procéda à l'acte de création, l'autre être divin était à ses côtés. On le voit encore clairement un peu plus loin, au verset 26 du même passage. Allez au verset 26, qui décrit la création de l'homme. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. » Selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Notez bien qu'il est dit, regardez bien, faisons, donc c'est pas je fais, faisons l'homme à notre image. Donc, les deux êtres divins éternels, le gouverneur et son porte-parole, sont tous les deux inclus dans ce passage-là. De toute évidence, ils avaient conçu ensemble ce plan-là. Et quand ils ont créé l'être humain a été créé selon leur ressemblance aux deux. OK? C'est ce qui est expliqué ici. Ça va loin, c'est puissant, tout ça se tient. On va aller plus loin. Pour mieux comprendre ce que le Logos, ou le porte-parole du gouverneur, a fait tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament. Et c'est lui qui a été là, directement impliqué avec les humains et les serviteurs de Dieu et la nation d'Israël tout au long de l'Ancien Testament. Dans la Bible, il est régulièrement appelé l'Éternel. Le Logos, celui qui était avec le Théos, ou le Dieu de toute éternité, dans l'Ancien Testament, porte le plus souvent qu'autrement le nom l'Éternel. Et comme nous le verrons, c'est lui qui traitait avec les êtres humains, avec Israël, puis avec ses prophètes à l'époque de l'Ancien Testament. Allez dans Genèse 18, un peu plus loin. Genèse chapitre 18. Et là, je vais vous donner un exemple de ça. Avant la destruction de Sodome et de Gomorre, c'est lui, le porte-parole, qui, accompagné de deux anges, est apparu à Abraham sous une forme humaine pour lui révéler certaines choses. Genèse 18, versets 1 à 3. L'Éternel lui apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Ça a dû être un choc, là. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, regardez bien, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. » Voyez-vous, il s'adressait à un en particulier, et il l'appelait son Seigneur. « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Ils étaient trois, là. Mais Abraham connaissait déjà le Logos, le Dieu de l'Ancien Testament. Au verset 22, on voit que les deux anges qui étaient là partirent ensuite en direction de Sodome, mais que l'Éternel resta encore un peu en compagnie de son serviteur Abraham. Verset 22, « Les hommes s'éloignèrent, les deux anges, et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel, en présence du Dieu de l'Ancien Testament. » Allez maintenant dans Jean 8. On va voir un verset spécial qui va vous aider à comprendre le lien qui existe avec ce que je viens de vous montrer ici. Jean chapitre 8. C'est certain qu'Abraham était ici en présence de celui qui allait devenir plus tard Jésus-Christ. D'ailleurs, le Christ l'a lui-même confirmé en disant ici aux Juifs dans Jean 8 à partir du verset 56. Regardez la déclaration qu'il a faite aux Juifs. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour, et il l'a vu et il s'est réjoui. Écoutez, le Christ, ici, il était dans la chair humaine, là. Il dit aux Juifs, j'ai connu Abraham, et il m'a connu, il avait hâte de me voir, il m'a vu, on s'est parlé. Les Juifs lui disent, on peut comprendre, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham, écoute, minute, c'est impossible ça. Tu n'as pas 50 ans, puis tu as vu Abraham, notre ancêtre, qui est mort depuis des centaines d'années. Et regardez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, autrement dit, avant qu'Abraham existe, je suis. Il peut dire je suis, parce qu'il est l'Éternel, il a toujours existé. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Ces Juifs ne comprenaient pas que l'Éternel de l'Ancien Testament était devenu, dans la chair humaine, ce Jésus qui était au milieu d'eux et qui leur affirmait avoir rencontré et connu personnellement Abraham. Ça, ils ne pouvaient pas le comprendre. Et on peut comprendre ce verset-là quand on sait que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Christ, avant qu'il devienne le Christ, que c'était le Logos. Formidable. Et ce passage-là devient clair seulement lorsqu'on comprend que c'est Jésus qui était l'Éternel de l'Ancien Testament, le Dieu d'Israël. Abraham n'était pas en présence de Dieu le Père, car le Père n'est jamais venu sur la terre. Et personne ne l'a jamais vu. Comme c'est écrit, vous irez voir dans Jean 1, verset 18. Je vous le cite, Jean 1, verset 18. Il est déclaré ici, « Personne n'a jamais vu Dieu. » En parlant du Père, bien sûr, parce que les gens ont vu le Dieu de l'Ancien Testament et les gens ont vu Dieu dans la chair, Jésus-Christ. « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Voyez-vous, personne n'a jamais vu Dieu le Père. Selon son plan, bien sûr, Dieu va venir sur la terre, mais plus tard, un peu après le premier millénaire du règne du Christ sur la terre, comme c'est écrit dans Apocalypse 21. Maintenant, on va voir à présent dans le Nouveau Testament un autre passage qui confirme que celui qui est devenu Jésus était bel et bien le Dieu de l'Ancien Testament, Yahvé, YHWH, comme c'est écrit dans l'hébreu. On prononce parfois Yahvé ou Yahweh. Et on traduit en français par l'Éternel. C'est pour ça que je vous dis que dans l'Ancien Testament, souvent le nom Éternel, ça représente le deuxième être divin, le porte-parole de Dieu. Quand on dit Yahvé, c'était le porte-parole, c'était le Logos. Ce n'était pas celui qui est devenu le Père par la suite. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire versets 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 10, on va lire versets 1 à 4. Et on va voir que Jésus était le Dieu de l'Ancien Testament. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ça, c'est les anciens Israélites lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était le Christ. Vous comment c'est clair? Le Dieu de l'Ancien Testament était le Christ. Le Père n'est jamais venu sur la terre. Ce passage correspond exactement à ce que le Christ, l'Éternel, a fait pour eux, en les guidant puis en les protégeant lors de leur sortie d'Égypte. Comme le montre Exode 13, verset 21. Pas besoin que vous y reportiez, je vais simplement vous le citer. Exode 13, verset 21. L'Éternel allait devant eux, Yahvé, le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchent jour et nuit. Alors voyez-vous, l'être spirituel qui conduisait l'ancienne nation d'Israël est celui qui est devenu par après le Christ. Jésus-Christ est le fondement du plan de Dieu, le point central de ce plan que le Père accomplit pour lui et par lui. Ça a été le cas de plusieurs ici, je pense. Mais personnellement, j'ai grandi dans un environnement chrétien traditionnel. Toutefois, quand j'ai commencé à vérifier ce que la Bible dit réellement au sujet de Jésus, j'ai réalisé une chose surprenante. L'idée que je m'étais jusque-là faite concernant le vrai Jésus était tout à fait fausse. Ça a été une grosse découverte et c'est formidable que Dieu nous montre qui il est vraiment et qui est vraiment le Christ. Vous savez, les images, les concepts, les enseignements populaires présentés par le christianisme traditionnel sont très différents des vérités contenues dans les Écritures, comme on peut voir. Puis comme Dr. Schweitzer a conclu également. C'est pourquoi le monde a une fausse idée de Jésus. Ils ne connaissent pas le vrai Jésus, même s'ils sont sincères. Par exemple, le Christ est régulièrement représenté comme étant... Et là, je ne vous surprendrai pas, vous avez tous vu des images, il y en a à profusion. Il est régulièrement représenté comme étant un homme faible, un homme hésitant, plutôt efféminé, au teint clair, aux cheveux longs, souvent en broussailles. Or, la Bible montre tout à fait le contraire. Écoutez, c'était un bâtisseur de maison, c'était un charpentier, un ouvrier. Il travaillait avec la hache, avec le rabot, avec les outils rudimentaires qu'il y avait à l'époque. Et la construction était quelque chose de difficile. C'est encore difficile aujourd'hui, mais à l'époque, ça l'était encore plus parce qu'il n'y avait pas les outils et les équipements d'aujourd'hui. Donc, c'était sûrement un homme musclé, un homme viril, un homme plein d'énergie. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, ça explique quelque chose, vous allez voir. C'est pourquoi personne n'a osé s'opposer à lui. quand il a renversé les tables des changeurs qui s'étaient installés dans le temple. Voyez ce que rapporte Jean, chapitre 2, verset 13 à 15. Jean, chapitre 2, verset 13 à 15. Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis, ayant fait un fouet avec des cordes. Il n'allait pas à main morte. Il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Écoutez, regardez la scène ici, là. Le temple est rempli d'animaux et d'hommes d'affaires, de vendeurs, de commerçants qui sont là depuis longtemps et qui sont pas habitués d'avoir peur, qui n'ont pas l'habitude d'avoir peur non plus. Et là, il rentre un homme là-bas et il dit « Dehors, vous autres ». Et ils sont tous sortis. Et les animaux sont sortis et les commerçants sont sortis aussi. Alors, ce n'est pas un être faible qui arrivait en les suppliant en disant « Pourriez-vous, s'il vous plaît, partir tranquillement. Quand ça donnera, si ça donne, non. » Il dit, il s'est fait un fouet, puis il a dit, vous sortez. Et ça a sorti. C'était évident qu'il ne les a pas suppliés doucement de partir. Avec autorité puis une grande force physique, il a renversé les tables, il a chassé les animaux, et tous les marchands se sont enfuis en courant. C'est ça qui s'est passé lorsqu'on regarde la description ici. Maintenant, je vois plus loin. Alors, le vrai Jésus, c'était pas cet être faible qui... C'est vrai qu'il était doux, puis qu'il était humble, qu'il était capable de beaucoup de compassion, mais quand c'était le temps de tracer la ligne, il était capable de tracer la ligne pour dire que c'était suffisant. Est-ce qu'il y avait un teint clair, un peu blafard, comme le montrent les images, et comme tout blême, comme s'il était un peu malade, si vous voulez? Au contraire. Son teint était absolument le teint de tout juif du Moyen-Orient à l'époque. Un teint basané. Et comme la Bible nous dit à d'autres endroits, il n'y avait rien pour attirer les regards. Il n'était pas différent des autres. Tellement qu'il se faufilait parmi les autres juifs et parfois les sacrificateurs avaient de la misère à le retrouver. Donc c'était un comme les autres. Il n'était pas plus pâle que les autres et plus différent. Non, il était comme les autres juifs de son époque. 1 Corinthiens 11. Il n'avait pas non plus de longs cheveux. L'apôtre Paul explique ici que la chevelure de la femme lui sert de voile. C'est une façon de parler. La chevelure de la femme lui sert de voile, de parure. Et c'est joli une femme avec de beaux cheveux d'une certaine longueur. Pas coupé comme un homme à court, là, mais d'une certaine longueur et bien entretenu. C'est joli. Et Dieu a donné ça à la femme comme bénédiction, comme une parure. Mais que l'homme, comme c'est mentionné ici, doit au contraire porter les cheveux courts. Et c'est pour ça que c'est de cette façon-là que les hommes se comportent dans l'Église. 1 Corinthiens 11, versets 14 et 15. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? On peut voir par ça, parce que c'est le Christ qui a inspiré cette Écriture, qu'il n'a jamais transgressé les lois de Dieu, il n'a jamais péché. Donc le Christ avait toujours les cheveux courts. Continuons la citation. « Mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme un voile. » Et vous savez, il y a des religions qui interprètent ça au pied de la lettre, ne comprenant pas le symbolisme ici, et obligeant les femmes à porter de longs tissus sur elles. Et moi, je me rappelle, mes sœurs allaient à la messe, et dans ce temps-là, il fallait que les dames entrent à l'église avec quelque chose sur la tête. Il fallait absolument qu'il y ait des chapeaux ou quelque chose pour les couvrir, justement à cause de ce passage-là. L'Église ne comprenait pas ou n'enseignait pas la vérité en disant que c'est la chevelure qui est un voile. On n'a pas besoin d'ajouter autre chose. C'est assez clair. Maintenant, quel était le but de sa première venue? Comme moi, vous avez sans doute pensé sincèrement que le Christ est venu sur terre il y a 2000 ans pour convertir le monde, pour changer le monde et pour apporter la paix. Si c'était pour ça, il n'a pas réussi. Parce qu'il n'y a pas plus de paix qu'il y en avait, il y en a moins. Okay? Mais il dit lui-même, à certains endroits, « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais la division. » Pourquoi? Parce qu'il est venu apporter une information qui n'allait pas être acceptée par tout le monde, et donc qui allait créer certains conflits, même dans les familles, même entre amis. Alors, il n'est pas venu pour apporter la paix. Ce n'était pas le cas. Il est venu pour donner sa vie, pour payer l'amende de nos fautes, afin que nous puissions être pardonnés au moment où nous nous repentons et que nous sommes baptisés. lorsque Dieu nous appelle. Jean 3, verset 16 rapporte ceci. « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, le but de sa première venue, il y a 2000 ans, c'était de donner sa vie et d'annoncer un monde nouveau, d'annoncer qu'il allait revenir pour établir le gouvernement de Dieu sur la terre. La bonne nouvelle d'un futur gouvernement mondial, comme on voit dans Marc 1 et le verset 15. Il disait, « Le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Voyez-vous, avec ça, il est clair en même temps qu'il ne suffit pas de croire. Il faut aussi se repentir, c'est-à-dire regretter d'avoir transgressé les lois divines et changer de comportement. Sans ça, on ne plaît pas à Dieu. Il est impossible de recevoir le pardon de nos fautes si nous ne repentons pas, si nous ne sommes pas déterminés à changer et si, avec l'aide de Dieu, on ne fait pas les efforts nécessaires. Dans le cas inverse, il est possible de recevoir le pardon de tous nos anciens péchés, d'être libéré de la douleur, de la culpabilité, de changer pour vivre mieux et découvrir la beauté du but que Dieu a pour nous. Alors, pour y arriver, il ne suffit pas de croire. Jésus l'a dit très clairement à plusieurs occasions. Vous en voyez une place dans Luc 6, verset 46, où il a dit, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? » Si on ne met pas réellement et complètement en pratique les lois et les enseignements du Christ, il nous dit que notre religion, elle est vaine, elle est inutile, comme il est écrit dans Matthieu 15, au verset 8 et 9. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des principes qui sont des commandements d'hommes. » Voyez-vous? Alors, il ne s'agit pas de croire. Beaucoup de religions enseignent qu'il s'agit de croire à Jésus et vous êtes sauvés, tout se fait comme par enchantement, comme s'il n'y avait rien à faire. Non, on a un rôle à jouer. Dieu veut qu'on fasse des bons choix et il va nous aider à les faire si on prend cette direction-là. Une autre vérité maintenant. Le vrai Jésus, Matthieu 13. La Bible nous montre clairement que Jésus faisait partie d'une famille humaine. Il y avait des frères et il y avait des sœurs. Ce qu'on ne nous a jamais enseigné quand on a grandi, qu'on nous parlait des choses bibliques. Il y avait des frères et des sœurs. Parce qu'après la naissance du Christ, Marie et Joseph ont eu d'autres enfants. Matthieu 13, versets 55 et 56. À ce moment-là, les gens, étonnés par les miracles du Christ et par sa sagesse, parlent de sa famille. Regardez ce qu'il dit. N'est-ce pas le fils du charpentier? Il était surpris de voir que cet homme-là, qu'il connaissait, qu'il avait vu grandir, puisse faire des choses aussi surprenantes que les miracles qu'il faisait. N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Alors voyez-vous, tout en exprimant leur étonnement, c'est qu'ils soulignent que le Christ avait bel et bien des frères et des sœurs. Il y a d'autres versets bibliques qui disent la même chose d'ailleurs. Vous pourrez aller voir Jean 2, versets 11 et 12. Jean 2, versets 11 et 12, il y a d'autres versets aussi. Qu'en est-il maintenant de la loi de Dieu, les 10 commandements? Plusieurs disent que cette loi a été abolie et que les 10 commandements ne sont plus nécessaires en tant que modèle de vie chrétienne. Jésus a dit clairement, il dit au jeune homme riche qui lui demandait « qu'est-ce qu'il faut faire pour entrer dans la vie éternelle? » Matthieu 19, verset 17, qu'est-ce qu'il a dit? « Si tu veux entrer dans la vie, avoir la vie éternelle, observe quoi? Les commandements. » Et le Christ mentionne très bien, à différents endroits dans la Bible, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est lui, le Dieu de l'Ancien Testament, qui a donné les 10 commandements sur le mont Sinaï. C'est lui qui, de son doigt, a écrit sur les tables de la loi les 10 commandements, qui n'ont jamais changé, qui ne changeront jamais, et qui seront appliqués dans le monde de demain, lorsque le Christ établira son gouvernement sur la terre. La même loi spirituelle. Les quatre premiers commandements nous montrent comment aimer Dieu et les 6 derniers nous montrent comment aimer notre prochain. Et quand la société au complet sera basée sur ces lois-là, la société sera en paix, elle sera prospère, elle sera heureuse et ce sera un monde merveilleux, celui qui a été annoncé par le Christ lorsqu'il est venu. Et le Christ a mentionné aussi dans Matthieu 5, verset 17, c'est très, très clair aussi, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. » C'est assez clair, c'est simple. Hein? Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Alors, ceux qui disent « La loi a été abolie », ils font simplement dire le contraire des mots exacts qui sont mentionnés par le Christ ici. Fait que dans le fond, ce qu'on ne veut pas, c'est qu'on ne veut pas en vivre. On ne veut pas les mettre en pratique. On ne veut pas faire l'effort de changer. Et c'est pour ça que le Christ va devoir intervenir dans ce monde qui s'en va vers une misère plus grande à cause de la transgression des lois. Les guerres, ce sont des transgressions des lois. Les viols, ce sont des transgressions des lois. Les abus d'enfants, les abus de toutes sortes, ce sont des transgressions des lois de Dieu. Et c'est pour ça que le Christ va devoir intervenir pour mettre un terme à toute cette misère sur la face de la terre et commencer une société entièrement nouvelle avec les survivants de la Troisième Guerre mondiale qui s'en vient. Je ne suis pas venu pour abolir la loi. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Matthieu 5, verset 17. On voit dans la Bible partout que le Christ et ses disciples observaient les commandements, y compris le sabbat, parce que le sabbat, c'est la pierre angulaire des commandements de Dieu. Parce que par l'observance du sabbat, on reconnaît que Dieu est le créateur de toutes choses et que c'est lui qui est en train d'accomplir son plan sur la terre et qu'il prépare un petit peuple maintenant pour servir avec le Christ une fois qu'il sera revenu très bientôt. Voyez-vous, c'est la base, c'est le cœur des commandements de Dieu. Alors le Christ et ses disciples ont toujours observé les commandements, ont toujours observé les sabbats, les fêtes de Dieu. Nous les observons. Le petit troupeau de Dieu, on n'est pas nombreux sur la face de la terre à observer ces fêtes-là, que les gens disent être des fêtes juives. Ce ne sont pas des fêtes juives, ce sont les fêtes de Dieu. Et ceux qui connaissent le vrai Dieu et qui connaissent le vrai Jésus veulent marcher dans ses traces et suivre ses enseignements et monter à la fête comme lui montait à la fête des tabernacles chaque année et observer les autres fêtes également. Parce que chaque fête est importante, vous savez. Chaque fête représente une étape majeure dans le plan que Dieu est en train d'accomplir pour l'humanité et qui va aller à son terme. Parce que ce que Dieu dit, il a la puissance de l'accomplir. À travers les siècles aussi, ça a été la même chose pour la petite Église de Dieu. Elle a toujours pris à cœur de mettre en pratique les lois de Dieu et d'observer ses fêtes. Maintenant, je prends un autre exemple pour montrer que ce que les gens croient, ce que j'ai cru même, est différent de ce que la Bible dit, concernant par exemple les paraboles. Concernant les paraboles. Avant de vérifier, je répétais ce qu'on m'avait appris. On m'avait dit que Dieu, c'est-à-dire Dieu, oui, Jésus dans la chair, parlait en paraboles pour être mieux compris. Parce que c'était des gens peu éduqués, puis il leur donnait des images, des illustrations pour leur faire comprendre. Alors que la Bible dit exactement le contraire. C'était pas pour que les gens comprennent, c'était pour qu'ils ne comprennent pas. C'est juste le contraire, hein? Au lieu de comprendre, c'est pas comprendre, c'est de l'autre côté. Et regardez Matthieu chapitre 13, versets 10 et 11. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole? » Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné, à vous les disciples, vous qui êtes appelés, et c'est la même chose à vous aujourd'hui, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Et quand ça ne nous est pas donné, ça reste un mystère. » Les gens autour de nous, de nos familles, de nos amis, de nos voisins, de nos collègues de travail qui ne comprennent pas, ce n'est pas de leur faute. C'est encore un mystère parce que Dieu ne leur a pas donné. Et c'est la même chose ici. Le Christ dit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Et je peux ajouter, ça ne leur a pas été donné encore. Ça leur sera donné après le retour du Christ, quand il va lever le voile qui couvre toutes les nations et les empêche de comprendre la splendeur de la vérité et du plan de Dieu. Pour le moment, c'est évident qu'il y a très, très peu de gens qui connaissent le vrai Jésus et qui connaissent son message aussi, qui connaissent le vrai Jésus et son message. Une autre incompréhension par rapport au vrai Jésus. De nombreux chrétiens sincères pensent que Jésus, dans la chair, était à la fois Dieu et à la fois homme. Et j'ai pensé ça aussi. J'ai été éduqué dans ce sens-là aussi, que c'était un demi-dieu puis demi-homme en même temps. Et c'est pour ça qu'il pouvait faire les choses qu'il faisait. Mais rappelez-vous qu'il disait « Je ne puis rien faire de moi-même. » comme nous, on ne peut rien faire de nous-mêmes. Il faut demander à Dieu, au nom de Jésus-Christ, pour avoir la force de faire les choses. Le Christ était entièrement homme. Il n'était pas à la fois Dieu et à la fois homme. Il a tout abandonné pour devenir un être humain à part entière, entièrement. Regardez Philippiens 2. Ça vaut la peine qu'on regarde ce passage-là ensemble. Parce que c'est une fausse conception qui est répandue dans le monde et ça enseigne au monde un faux Jésus. Alors que le vrai Jésus était entièrement homme. Il a souffert comme nous. Et c'est pour ça qu'il peut compatir à nos faiblesses. Et c'est pour ça qu'il peut être un juste juge. Parce qu'il est passé par là. Il a vécu les choses que nous vivons, sans jamais pécher toutefois. Mais il a vu le malheur et les résultats négatifs que le péché amène. Il était au milieu des gens physiquement. Philippiens 2, versets 5 à 7. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Ça veut dire quoi? Il dit « Il était avec Dieu, il était totalement Dieu, avec tous les pouvoirs et les prérogatives que ces deux êtres divins avaient de toute éternité. » Il dit « Il n'a pas regardé sa situation comme étant quelque chose à arracher ou à tenir à tout prix. Il a abandonné tout ça, il a abandonné ses privilèges, ses prérogatives, sa puissance. Existant en forme de Dieu, lorsqu'il était le Logos, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. » Mais il s'est dépouillé lui-même volontairement. Il s'est dépouillé de quoi? De sa divinité, de sa puissance, de sa gloire, pour devenir un être humain. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, il a paru comme un vrai homme. Est-ce que c'est plus clair? Ça ne peut pas être plus clair. Il est paru comme un vrai homme, à part entière, comme nous. Maintenant, je vais plus loin avant de terminer. Que dire de son anniversaire de naissance? Que dire de son anniversaire de naissance? Il ne l'a jamais célébré et n'a jamais commandé à qui que ce soit de le célébrer. Il n'y a aucune indication biblique, d'ailleurs, qui nous dit de le faire. C'est formidable. Il nous a plutôt commandé de célébrer sa mort. Et c'est pour ça que nous ne célébrons pas les anniversaires de naissance non plus. Mais il nous a commandé de célébrer sa mort, son sacrifice pour nous. On célèbre ça une fois par année. À quel moment? Lors de la cérémonie de la Pâque, qui est la première fête dans le plan de Dieu. Nous ne célébrons pas les Pâques, qui est quelque chose de complètement différent. Les Pâques que plusieurs églises chrétiennes célèbrent, pour eux, selon eux, c'est la résurrection du Christ. Mais le Christ a demandé de célébrer la Pâque, c'est-à-dire sa mort. Et les Pâques, en français, ça ne dit pas grand-chose. Mais quand vous regardez le mot anglais, Easter, ça vient de Ishtar. C'est une déesse de fertilité du monde païen. Okay, donc, c'est une fête païenne qui a été introduite dans le monde christianisé, on va dire, entre guillemets. Et regardez 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. 1 Corinthiens, chapitre 11, c'est Paul qui parle ici. Et ça décrit que le Christ nous a commandé de se commémorer, de se rappeler de sa mort, de célébrer sa mort, et non pas sa naissance. 1 Corinthiens 11, versets 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et quand le Christ a manger cette Pâque-là avec ses disciples, c'était la veille où il allait être mis à mort. Le lendemain après-midi, il allait être mis à mort. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Voilà le commandement qu'il nous a donné. C'est ce que nous faisons une fois par année, tel que la Bible nous en donne la directive. Maintenant, vous avez vu le passage aussi où c'est écrit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Dieu attire, c'est Dieu qui attire au Christ. Jean 6, verset 44. C'est Dieu qui attire au Christ. Et Dieu attire un certain nombre de personnes, assez grand, d'après ce qu'on peut voir. Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire que dans tous ceux qui sont appelés, selon les réactions de ceux que Dieu attire au Christ, c'est le Christ lui-même ensuite qui choisit avec qui il va travailler. Et ceux qu'il choisit et qui viennent à l'Église et qui s'appliquent à vivre selon ses lois, il les appelle ses élus. Élu veut dire choisi. Ce sont ses choisis. Comme quelqu'un qui est élu lors d'une élection, il est choisi par les gens de son comté ou de sa région pour les représenter au gouvernement. Voyez-vous? Alors ici, c'est exactement la même chose. Alors, parmi tous ceux que le Père a attirés à Jésus, c'est Jésus qui choisit les élus, ceux avec qui il travaille, pour les leur apprendre à servir aujourd'hui en prévision du monde de demain. Vous pourrez aller voir ça dans Jean 15 et le verset 16. On va le lire parce qu'il y a quelque chose que je veux vous montrer dedans. Je vais vous montrer là, à ce moment-là aussi. Jean 15. On va le lire parce qu'il y a un élément que je veux vous montrer dans ce passage-là. Jean 15 et le verset 16. Regardez comme c'est clair. « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est le Christ qui parle, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez. » Donc parmi tous les appelés, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, le Christ en a choisi un certain nombre et si vous êtes là, c'est qu'il vous a choisi et moi aussi. Et on va se rendre au bout si on tient la main du Christ et si on s'applique à faire sa volonté avec son aide. Mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Un, du fruit de repentance pour continuer à changer. Et deux, du fruit de son esprit pour développer le caractère de Dieu. Et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ça m'amène au petit point que je veux souligner, c'est que son nom est puissant. Son nom, en fait, c'est une procuration que nous avons qui nous permet de nous présenter devant le trône du gouverneur de l'univers. Une procuration, c'est un document qui nous permet d'accéder à certaines choses. C'est une autorisation. Et lorsqu'on veut appartenir au Christ, qu'on s'applique à faire sa volonté, on peut se présenter devant le trône de Dieu avec son nom, parce que c'est par lui et pour lui que toutes choses ont été faites et vont se faire. C'est une procuration extraordinaire. Ça nous donne accès, dans le fond, au Père si nous nous repentons. Un autre petit point, il est notre avocat auprès du Père. C'est un juste juge. Pourquoi? Comme j'ai souligné tantôt, parce qu'il a lui-même vécu dans la chair. Vous pourrez aller voir Hébreux 7, verset 25. Il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Et regardez 1 Jean 2, verset 1. 1 Jean 2, qui confirme la même chose, un autre rôle. 1 Jean 2, verset 1. Mes petits enfants, je vous écris ces choses. C'est l'apôtre Jean qui parle. Afin que vous ne péchiez point. Nous, notre travail, c'est de cesser de pécher, de nous purifier, de changer avec l'aide de Dieu. Seul, on n'est pas capable. Et si quelqu'un a péché parce qu'il nous arrive de tomber, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voyez-vous, la puissance que son nom a, la puissance qu'il a pour nous, auprès du Père, il est notre avocat. Et lui peut dire à son Père, regarde Père, ce que cette personne-là vit là, c'est extrêmement pénible et ça l'expose à des décisions mauvaises et tout ça. Regarde, on va l'aider de telle façon, on va soutenir, on va l'encourager aussi. L'épreuve perdure, on va lui donner la force nécessaire. Parce que j'ai vécu dans la chair, Père. Le Père n'a jamais vécu dans la chair humaine comme le Christ a vécu dans la chair humaine. C'est pour ça que le Christ a appris par les choses qu'il a vécues. Pourtant, Dieu sait tout. Dieu sait tout, non? Mais c'est écrit dans la Bible qu'il a appris par les choses qu'il a vécues. Il n'avait jamais vécu dans la chair humaine avant. Et là, il a appris par les choses qu'il a vécues. Parce qu'il Ayant vécu ça, il peut comprendre nos souffrances, nos craintes, nos peurs, nos culpabilités, nos faiblesses, toutes ces choses-là, parce qu'il les a vues. Et il a été tenté en toutes choses. Il sait à quel point la tentation est forte, même s'il n'a jamais péché. Donc, il peut intervenir en tant que notre avocat pour plaider notre cause devant le gouverneur de l'univers pour que nous recevions l'aide nécessaire si nous sommes encore disposés à continuer à changer. Et c'est intéressant, on ne se reportera pas, mais dans Matthieu 28, verset 18, il est dit ceci, qu'il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Alors, voyez-vous, le gouverneur de l'univers a tout créé par lui et pour lui. Et maintenant, il lui donne tout pouvoir sur la terre et au ciel. C'est extraordinaire. Voilà, en résumé, qui est le vrai Jésus de la Bible. On pourrait ajouter d'autres choses, mais ça nous donne déjà une image assez précise et tellement encourageante. Le Jésus de la Bible, vous savez que c'est qui dans le fond, quand on regarde les choses comme elles doivent être? C'est notre héros. On n'a plus d'idole comme avant, soit dans la musique ou dans les sports. On a un héros, un vrai héros, un champion, quelqu'un qui a maintenant tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. Et il est notre modèle, il est notre sauveur, notre défenseur. Il est la base et le point central de tout le plan divin. Pour qu'il soit avec nous, il faut que nous soyons avec lui. Pour qu'il soit avec nous, il faut que nous soyons avec lui de tout cœur, sur la même longueur d'onde, pratiquant sa voie en marchant sur ses traces vers un avenir formidable.